Comment les optimistes voient-ils le monde? Quelles qualités cultivent-ils? Comment s'entourent-ils?
Mais les Français sont brillants, sont pleins d'idées, donc quand vous avez une idée, allez-y, tentez. Puis à la limite, si vous vous gaufrez, c'est pas grave, vous allez rebondir et en trouver une autre.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up. 100% optimiste, 100% énergie.
Bonjour et bienvenue dans Very Good Vibes, votre rendez-vous avec tous les business leaders. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Ménel, PDG de la marque de vêtements d'inspiration rugby Eden Park.
Christelle Cronier.
Bonjour Franck.
Bonjour Christelle.
Alors votre entreprise fête ses 31 ans. Elle est reconnaissable hein, avec son petit... D'ailleurs, vous en avez un sur vous là. un petit papillon rose.
Oui.
Nos papillons roses.
Oui. Oui, 30 ans, c'est à la fois très, 31 ans, c'est à la fois très jeune et c'est déjà une certaine maturité pour une marque.
Non, c'est tout jeune. Alors, vous l'avez lancé en 97, vous étiez à l'époque joueur de rugby, joueur international de rugby.
J'ai grandi en fait à Saint-Germain-en-Laye en jouant en 3e division et nous naviguions entre la 3e division et l'honneur. Et j'ai grandi jusqu'à 26 ans en fait à Saint-Germain-en-Laye en faisant mes études d'architecture. Et à la fin de mes études, je tergiversais un petit peu et hésitais entre une carrière de pilote.
L'hélicoptère.
Oui, enfin tout ce qui
va. Dans l'armée.
Ouais. Mais malheureusement, c'est l'année où c'est passé de 5 à 10 ans et j'ai un peu craqué, j'ai pas voulu y aller pour une période si longue. Puis j'ai eu ce coup de main, ce coup de pouce de mes copains qui m'ont dit tu devrais quand même essayer une aventure à plus haut niveau. Donc je me suis préparé comme un dingue sur la musique de Rocky 1.
Ah, c'est comme ça qu'on.
Voilà,
qu'on
et je suis arrivé pour jouer le match le plus important de ma vie, qui était un match totalement bidon au mois d'août contre Sainte-Geneviève-des-Bois, que j'adore. Mais pour moi, c'était le match qui me permettait éventuellement de rencontrer mes copains du Racing et puis éventuellement d'accéder à la première division. Donc j'ai fait passer le plus mauvais après-midi possible à mon vis-à-vis, alors que tous mes congénères du Racing, eux, rentraient du Pays Basque ou de la Côte d'Azur avec du sable dans les chaussures, tout bronzé. Et moi, je n'avais qu'un objectif, c'était d'essayer d'intégrer cette équipe. Donc j'ai effectivement fait le match de ma vie. Et ensuite, on a très rapidement, avec cette équipe d'étudiants, qui sont devenus des amis extrêmement vite, on a commencé à jouer un rugby un peu original, parce qu'on a eu à répondre à une problématique technique.
Ouais.
Nous prenions à l'époque 40 points tous les dimanches et puis des baffes. Ce qui n'est pas, vous l'avouerez, une solution d'avenir.
On commence tous comme ça.
Voilà. On a recruté deux types extraordinaires parmi d'autres, mais un deuxième ligne qui s'appelle Michel Tadjian et un talonneur fou informaticien qui s'appelle Jean-Pierre Genet, qui eux nous ont des types absolument incontrôlables, qui nous ont donné à Paris, nous, les petits snobinards de la capitale, etc., une vraie dimension physique. C'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours dans la règle, mais en tout cas, ils ont calmé les ardeurs de certaines grandes équipes du Sud-Ouest, puisqu'il était très facile de venir boulotter du Parisien. On avait un joli maillot bleu ciel et blanc, avec des belles gueules, etc. Et donc, le Sud-Ouest avait un grand plaisir à venir nous chahuter, nous provoquer et bien sûr, battre la capitale. Pour les avants, j'ai réglé le problème.
Ouais.
J'ai expliqué comment on ne prenait plus de baffes. Pour les trois quarts, dans cette équipe, on avait deux feux follets, deux types totalement indépendants, fous furieux, Jean-Baptiste Lafont et Eric Blanc.
Alors Eric Blanc, avec qui vous êtes associé ensuite?
Avec qui je me suis associé par la suite. Mais ces deux joueurs étaient des feux follets incontrôlables. Et notre entraîneur Robert Papenrombord a eu un coup de génie. Il s'est dit, soit j'apprends aux 13 autres à m'adapter à ces deux dingues, soit je
soit suis... Vire.
Voilà, soit je suis la tactique qui consiste à me débarrasser de ces deux mecs qui me gênent et qui m'empêchent de consommer. Mais il a pris le risque insensé de se dire, ces mecs sont trop doués, les 13 vont s'adapter. Et lorsque ces deux joueurs prenaient des initiatives totalement insensées en relançant de leur embut, qui est la partie très à l'intérieur des poteaux chez nous, les autres joueurs le savaient. Donc il y avait nous étions tous préparés à ces relances de folie. Et voilà, et ça a provoqué un jeu dynamique basé sur la contre-attaque, assez sympa. Et comme on ne se prenait pas trop au sérieux,
ouais, c'est ce que j'allais dire, beaucoup d'humour avec le championnat de France
qui était encore à l'époque amateur. C'était très sérieux, hein, c'était quand même très sérieux, mais on arrivait à concilier une certaine décontraction parce qu'on était tous étudiants à droite à gauche, et puis par ailleurs on jouait quand même en première division.
Mais avec des papillons roses, des nœuds papillons.
Alors ça c'est venu à la fin. le côté facétie, c'est lié un peu à ce côté estudiantin.
Ouais.
On a commencé par jouer avec des bérets à Bayonne. Vous dire exactement pourquoi, je n'en sais rien. Probablement parce que
très attiré par le textile.
Oui, surtout parce que la grand-mère de Jean-Baptiste était basque et qu'il fallait rendre hommage aux grands attaquants basques. Donc on a décidé d'aller d'une façon un peu outrecuidante d'aller à Bayonne, à Saint-Léon, jouer avec des bérets, avec la trouille au ventre et la peur que les Basques nous piquent le béret pour se les mettre sur la tête. Ben, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. On a battu, nous, tellement on avait de pression sur les épaules, on a battu les Basques. Et c'est comme ça que la petite légende a commencé à grandir. jusqu'au point de se retrouver à la veille d'une finale, puisqu'en fait, ce système d'animation et de motivation nous a permis de gagner les matchs.
Ouais.
Et à la veille de la finale, qui se jouait au Parc des Princes à l'époque, bah, la presse nous a un petit peu chahuté, nous a taquiné en disant, mais est-ce que vous, voilà, vous faites quoi? Vous venez à cheval? Vous...
Et, non, on vient juste avec un nœud pape.
Alors, le nœud pape, c'est venu d'une idée très simple. On s'est dit, c'est un jour unique, c'est une fête. On ne sait pas du tout si on reviendra au Parc des Princes pour une autre finale. Donc, on s'est dit, bon, ça va être la grosse stuff. Donc, on s'est dit, ça va être difficile de venir en costume.
On prend du plaisir.
En smoking. On va garder l'accessoire du smoking, qui est le nœud papillon. Et comme notre mascotte était rose et que nous portions déjà des caleçons roses sous nos shorts, on l'a peinturlurée et on a osé, voilà, ce truc insensé de rentrer au Parc des Princes devant le président, devant. Il y a eu un échange d'ailleurs. Jean-Baptiste a offert un petit nœud papillon rose à François Mitterrand à l'époque. On a perdu cette finale.
Ouais.
Mais il y a un véritable.
Mais vous l'avez jamais oublié.
Bah, nous jamais. Mais il y a vraiment eu un engouement.
Ouais.
Tel que Eddie Barclay, à la suite de la finale, nous propose de tourner un clip et de chanter une chanson. Donc on se retrouve devant 40 fois à la télévision en prime time sur toutes les émissions du moment. Et tout le monde parle du nœud papillon rose, du nœud papillon rose, du nœud papillon rose, voilà, du showbiz de temps en temps, parce qu'on nous qualifiait ainsi. Enfin, c'était les gros qui nous appelaient comme ça.
C'est de là que vous avez pensé à faire vos vêtements
avec... Non, on s'est retrouvé vraiment avec un logo. En terminant Archi, moi, je passe quelques mois chez Seguela, ouais. RSCG à l'époque. Et puis, au bout d'un moment, voyant que la publicité était extrêmement intéressante, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue marketing, mais ce serait probablement pas mon métier d'avenir, je suis allé voir Alain Cézac. Et lui a dit, voilà, on a une idée géniale autour de ce nœud papillon. C'est un logo insensé. Et
Vous avez commencé par le logo, vous, en fait, pour arriver dans les vêtements.
On a commencé par le logo. Et Alain m'a dit, mais
c'est original.
Mais ok, ton logo, mais le reste. Et là, je lui ai dit, je sais pas.
Je sais pas faire. J'ai jamais fait des vêtements.
Non, mais même pas de vêtements. Ouais. Il était même pas question de vêtements. Il était question d'utiliser un logo.
Juste un logo.
Donc on a imaginé le coller sur une bouteille de vin, sur une bouteille de champagne, faire un coup. Et puis, comme j'ai très vite vu que j'allais abandonner mes études d'archi, et en une certaine pression familiale, je me suis dit, il faut que je fasse un truc sérieux. Donc, on est retourné bosser avec Eric. On a réfléchi à un positionnement stratégique. On connaissait pas ce métier, donc on s'est positionné en premium. Il y a quand même moins de monde dans le haut de gamme que dans le mass market. Ça nous a permis de prendre le temps d'apprendre un peu ce métier.
Style élégant et décontracté.
Oui, ça, c'était, mais c'était une façon d'aborder ce métier avec une certaine sécurité. Voilà, nous étions tous les deux encore vivants, donc capables de dynamiser cette marque. Je vous ai parlé du positionnement. Je vous ai parlé de la qualité. On savait tous que nos aficionados, enfin tous les gens qui aimaient le rugby viendraient nous gentiment acheter une fois
un maillot, un blazer
ou quelque chose, voilà. Et donc si le truc important était absolument d'assurer le deuxième achat. Et là aussi, on n'a absolument pas lésiné, on a fait de la surqualité sur nos produits. Et puis bien sûr, il a fallu aussi avoir déterminé un produit sur le modèle du Croco, nos amis du Croco. Et on s'est dit qu'effectivement, il y avait une légitimité à ce qu'on puisse avancer ou apprendre à fabriquer un maillot qu'on savait détruire. Jusqu'à maintenant, et voilà, ça serait, voilà, le maillot de rugby deviendrait le produit iconique de la marque pour le lancement de la première collection.
Mais donc, vous n'avez pas eu peur, en fait, de vous lancer dans un domaine, finalement, que vous ne connaissiez pas du tout?
Mais si, mais absolument.
Alors, comment on fait pour dépasser ses peurs et y croire? Est-ce que vous aviez des croyances particulières?
Non, vous avez tout dit, Christelle. On avait la croyance, on avait la foi en cette idée. Effectivement, quand on a eu ce coup de main des pubards qui nous ont dit, bah voilà, tu viens d'aligner tous tes paramètres, Franck, vous pouvez y aller avec Eric, vous avez vraiment des paramètres forts et vous pouvez rajouter votre papillon sur ce produit, on s'est dit que ça allait être, que l'idée allait être indestructible, elle était forte. Aujourd'hui d'ailleurs, si nous continuons à survivre après 30 ans, c'est parce qu'il y a tous ces paramètres très importants, dont la qualité de nos produits à laquelle
et une histoire, quoi.
Il y a un cumul de 5-6 paramètres qui rendent la marque très forte, et aujourd'hui les nouveaux messages sont au travers du digital. Il faut aussi qu'on cible une catégorie de personnes plus jeunes, ça tombe bien parce que cet outil très technologique est totalement maîtrisé par les jeunes, ça nous intéresse beaucoup parce que ça veut dire qu'il faut que nous on crée du contenu pour eux et ça modernise de soi et de fait la marque.
C'est quoi les qualités essentielles selon vous pour un entrepreneur? Parce que j'ai vu que vous étiez très soucieux par exemple du détail, assez perfectionniste. Est-ce que ça fait partie vraiment de ce qu'il faut avoir pour se lancer?
Absolument, ouais. C'est même essentiel. Moi, je garde du rugby un principe assez directif puisque c'est toujours la même chose sur un terrain de rugby. Il y a des règles, il y a un arbitre qui n'est jamais discuté. Il y a des joueurs qui viennent de tous les univers, sociales, culturelles, religieuses, etc. Et le fait que ce soit un sport de combat collectif vous impose systématiquement une paix générale pendant une heure et demie, parce qu'il faut trouver la solution ensemble et se serrer les coudes ensemble, sous peine de terminer à la salpêtrière, le bras en écharpe.
Oui, c'est une motivation.
Au mieux. Donc voilà, le rugby est un sport très très directif. En revanche, et je laisse aux gens le fait d'établir le pont qui peut exister entre une équipe de rugby, une équipe de foot ou une équipe de hand ou de hockey sur glace, le pont qu'on peut établir entre le sport et l'entreprise. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de laisser penser aux gens que c'est sans travail, en ne pensant que loisir, sans effort, sans douleur. On va y arriver. Donc ces paramètres nous sont appris dans le sport.
Vous avez dit que vous avez redoublé de travail, vous, parce que vous aviez l'impression d'avoir été un enfant plutôt gâté et privilégié. Donc
C'est le cas en fait. Quand vous êtes aux Beaux-Arts jusqu'à 27 ans, vous vous laissez bercer par. C'est aussi de la créa, c'est aussi très intéressant. Puis ça m'a donné aussi quelques qualités pour pouvoir monter un projet en commençant par les fondations et en terminant par le toit. Et malgré tout, c'est vrai, on s'est aperçu tous ensemble qu'on avait 27 ans, qu'on était des étudiants bien sympas, mais que la vie était belle. Et il a fallu redoubler de violence et d'efforts très naturellement pour compenser un peu les gens qui bossaient déjà depuis 7-8 ans. Et rattraper le niveau, puisqu'on était en retard, nous. Nous ne gagnions pas d'argent, enfin un tout petit peu d'argent... Nous étions défrayés, selon le terme exact, mais pas suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Donc il a fallu à un moment donné qu'on se réveille tous. On a fait un tour de table et seul Eric était disponible puisque les autres avaient déjà un boulot. Et puis se lancer dans le textile, c'était vraiment pas quelque chose d'imaginable.
Ouais, c'était un pari.
C'était un vrai pari. Mmh. On nous a d'ailleurs fortement déconseillé de se lancer dans cette histoire. Mais quand vous le savez parce que vous avez un métier aussi, vous vous levez tous avec énergie le matin. Quand un tel truc vous touche, c'est la grâce, quoi. C'est transformer le boulot en passion, c'est quelque chose de fondamental. Mais surtout, faut vraiment insister, sans être un vieux con, si vous me permettez l'histoire, mais faut insister sur les valeurs du boulot. Il faut arrêter de rêver. Il y a un mec sur 1000 qui va devenir chanteur parce qu'il est doué, mais les autres bossent.
Vous avez un rythme toujours aujourd'hui.
Oui, j'ai un rythme qui est
bon rythme.
Oui, puisque je suis passionné de toute façon par tout ce que je touche, tout ce que je découvre. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce que je ne connais pas. Fort de ce principe, en ce moment, nous sommes extrêmement concentrés sur la digitalisation, les réseaux sociaux. Je suis une pince, je suis complètement nul dans
ça. Et bientôt aussi les. Ah ben on peut pas tout savoir faire, mais. Ouais. Et bientôt aussi le. Et bientôt aussi la Coupe du Monde dans 3 ans.
Oui, c'est important d'avoir un objectif. C'est bien d'avancer avec une marque et puis de s'adapter au marché, etc. Mais quand on est porté par un événement et de surcroît mondial, la Coupe du Monde là a lieu cette année en 2019 au mois de septembre au Japon. Nous serons présents d'ailleurs grâce à un partenariat très sympa qu'on a construit avec Sanjam. Et nous espérons être présents dans un certain nombre de leurs points de vente là-bas au Japon, ce qui permettra aux gens japonais de découvrir la marque. Mais
parce que vous avez plus de 500 points de vente, c'est ça, France et à l'international.
Oui, on a effectivement 500 points de vente, tout compris, majoritairement en France. Et puis, mais c'est vrai qu'on a déjà mis les pieds dans 30 pays. L'Asie est bien sûr un territoire qui est très important aujourd'hui. Et d'un point de vue image, le Japon en est un peu la tête de proue, donc il faut absolument déployer là-bas la marque, et elle a tous les atouts pour pouvoir le faire. Mais cette Coupe du Monde encore a lieu au Japon, et au retour de cette Coupe du Monde, on va déjà se mettre en route de toute façon dès cette année sur cet objectif extraordinaire.
Il va falloir mettre des mangas sur vos maillots.
Oui, alors ça c'est... Ouais, peut-être, mais sur celle, en tout cas sur la Coupe du Monde qu'on envisage en 2023, on va pouvoir construire... vraiment sereinement pendant 3 ans, et voilà, c'est très 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 essentiel pour nous d'avoir un objectif.
Est-ce que c'est important de savoir sortir de sa case? C'est finalement ce que vous avez fait au départ, en mettant un peu d'humour dans le rugby, et là où c'était pas forcément un terrain quand on veut entreprendre.
Je crois qu'on est, quand on veut entreprendre, ouais, quand on est français, enfin, ça fait partie de notre culture. Je crois qu'on parle souvent, on a parlé dans la mode du petit je ne sais quoi de Jean-Paul Gaultier ou de Monsieur Saint-Laurent, qui arrivait à porter une petite touche particulière. Je crois que c'est dans nos gènes. Je pense qu'on est plus, même si Alain Delon est sublissime, on est plus quand même Belmondo en France que Alain Delon. Alain Delon, il est un petit côté italien, etc. Belmondo, c'est ça, c'est la gouaille à la française, c'est l'inspiration, c'est les tac tac boum boum tagada, je viens, je passe, je retourne à Caracas.
Voilà. Un grand fan, Joe.
Ouais, et puis c'est un peu ça, la France, c'est la personne que l'on attend là où elle n'est pas, c'est la surprise.
C'est marquer sa différence.
C'est marquer une différence, et puis quand on les aime pas, les Français, on les trouve arrogants, et quand on les aime bien, on les trouve charmeurs. Mais c'est quelque chose qui est véhiculé, qui est connu dans le monde entier, et c'est quelque chose sur lequel on doit capitaliser. Et comme ça, finalement, ce principe-là s'appelle le French Flair, qui a été utilisé, encore une fois, par Gauthier dans la mode ou sur les terrains de rugby depuis des années, parce que c'était vraiment la définition du système de jeu des Français. Un système de jeu attrayant, où le ballon vole vraiment, où il se passe plein de choses. Enfin, il y a de la surprise aussi. Les Anglais et les Japonais nous détestent par ce côté imprévisible. Et c'est ce qui fait le talent des grandes équipes de rugby, qu'on va retrouver, bien, vous inquiétez pas, très vite. Pour l'instant, vous avez une belle équipe. Une belle équipe, je dis vous, parce que je sais que la maison est assez attaché au foot, etc. Et je vous félicite parce que vous avez généré des grands footballeurs.
On est des grands rugbyman aussi le week-end.
Et puis des grands hommes, parce que je pense que Kylian Mbappé, avec ses 19 ans, est vraiment quelqu'un d'attachant. Et il faudrait faire attention d'ailleurs, s'il vous plaît, de pas trop nous piquer nos valeurs, parce que vous êtes en train de le faire.
Ouais, c'est ça. Hein. Quand on crache sur les arbitres, c'est vos valeurs.
Voilà, mais non, enfin, je crois qu'on. Le principe du sport de combat collectif pendant une heure et demie. Chez nous, régule assez naturellement les choses. Mais c'est vrai que je m'agace un peu parfois de temps en temps sur cette règle. Et voilà, je supporte pas qu'on discute les décisions d'un arbitre, même si elles sont mauvaises. C'est quelque chose chez nous qui est absolument impossible. Et on a, vous savez, l'exclusion temporaire pendant 10 minutes. Je pense qu'on mettrait ça au moins dans toutes les écoles de foot le mercredi. On parlerait plus d'un sport de masse et d'un sport de riche avec le rugby. C'est pas vrai, je vous assure. Au fin fond du Pays Basque. Des bonnes personnes saines, simples, vous les avez tout autant que les bonnes personnes simples du foot. C'est les règles qui nous ont pourri tout ça, et à mon avis qui pourrissent un peu l'état d'esprit excessif, parfois exceptionnel, qu'on peut voir dans le foot. Je dis bien exceptionnel.
Bon, je suis d'accord. Hein. Donc voilà, le message est passé. Espérons qu'il sera reçu. Moi, je voulais vous parler aussi de l'association que vous avez créée en 2012.
Ouais, le Papillon du Ciel.
Ouais.
Ouais, bah, vous avez compris que toute cette histoire rugbystique, etc., était vraiment liée à l'éducation, que c'est quelque chose auquel nous sommes naturellement très attachés. C'est ce que nous ont inculqué tous nos entraîneurs, tous les bénévoles sur les terrains de rugby à Colombes et ailleurs. Et il nous a semblé normal à un moment donné de rendre, hein, comme on le fait, comme beaucoup de gens le font. Hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai qu'on a construit vraiment de fond en comble une école à Sainte-Marie sur une petite île au large de Madagascar.
Pour les enfants défavorisés.
Pour les enfants défavorisés, puisqu'on a la moitié qui viennent d'un orphelinat, les autres d'une petite EPP qui est un cours élémentaire. Et ces enfants sont 100 aujourd'hui dans ce collège, et on va avoir une première génération de bacheliers, c'est-à-dire qu'on les lâche après la troisième, en essayant de faire le maximum pour qu'ils intègrent le français, pas parce que c'est le français, mais parce qu'il y a beaucoup de petits hôtels dans cette île. Et donc si jamais ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir continuer après la troisième, au moins en parlant français, ils s'assurent quasiment un job dans ces hôtels. Donc c'est de l'enseignement malgache.
Vous leur apprenez le rugby aussi?
Oui, enfin, on a jeté une grosse olive au milieu de tout ça pour essayer de compenser un peu le côté individualiste qu'il peut y avoir dans les îles. Assez curieusement, dans les îles, les gens ont un comportement individualiste et ont tendance à tirer un peu la couverture à eux. Le rugby leur ouvre un peu les chakras. Et puis, globalement, à Madagascar, que ce soit le long des côtes ou sur les îles, on joue naturellement plus au foot. C'est sur les hauts plateaux d'Antananarive que le rugby sert aussi à développer l'éducation des mômes. Il y a quelques anciens rugbymen français qui s'y sont intéressés, et il y a 200 équipes à Tana où des gamins jouent sur du dur avec des bouteilles en plastique accrochées avec du scotch et du sable à l'intérieur quand ils n'ont pas de ballon de rugby. Mais ça, voilà, ça participe aussi à l'éducation de très loin, mais d'une façon vraiment très efficace là-bas.
Franck, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous donner 3 conseils pour envoyer des very good vibes à nos futurs entrepreneurs ou à nos entrepreneurs actuels?
Bah, déjà, soyez vous-même, ayez confiance en vous.
L'optimisme, c'est important.
L'optimisme est essentiel. Et de toute façon, vous avez, c'est le principe de la bouteille vide ou de la bouteille pleine. Ou moi, je suis un peu bulldozer là-dessus. Je me dis que de temps en temps, j'éteins la télévision c'est pas bien, hein, de couper les médias. Surtout maintenant, là, je suis en train de parler.
On va pas nous couper le sifflet.
Non, mais de temps en temps, faut faire attention, parce qu'on est vraiment, on est vraiment soumis à une pression colossale, et je crois qu'il faut avancer. Surtout, les Français sont brillantissimes, sont farcis d'idées. Je suis fou furieux quand je vois beaucoup de Français partir à l'étranger, réussir dans le domaine artistique, dans le cinéma. Je vois le talent qu'ont les Français dans le monde entier à développer leur culture, etc. Donc, je trouve qu'on devrait tout faire pour essayer de les retenir ici. Et voilà, mais les Français sont brillants, sont pleins d'idées, donc quand vous avez une idée, allez-y, tentez-le. Puis à la limite, si vous gaufrez, c'est pas grave, vous allez rebondir et en trouver une autre. Et si je garde quelque chose du rugby, entourez-vous, quoi. Entourez-vous. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Sur un terrain de rugby, encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des qualités, d'aller chercher des compétences autour de vous. Et au début, vous ferez un peu tout. Et puis, petit à petit, vous vous apercevrez que vous ferez de moins en moins parce que les gens autour de vous sont meilleurs que vous. Et le jour où vous n'avez plus rien à faire, vous avez gagné. Ça m'est pas encore arrivé.
Merci beaucoup, Franck. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.
Merci, à très bientôt. Merci, Christelle.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up. 100% optimiste, 100% énergie. Rendez-vous tous les lundis sur toutes les plateformes de podcast.